Radio.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Radio U Quimper et ce soir nous vous proposons une émission spéciale depuis la salle d'Anne Arbraz à Quimper pour la troisième édition de la Java d'été. Ce vendredi soir se succéderont sur la scène les talents locaux bretons de la musique électronique, le Rennais Lawir, le Brestois Ronnie, le Quimperois Blanc Soleil, les Rennais de Mackie Wester et les Rennaises de DJ LMS et Nuance. Toutes et tous ont été repérés par Dans la Zone, l'association qui organise la Java d'été et aussi la Java d'hiver, et qui ont également un label. Ils sont avec nous ce soir. Je ne suis pas seul pour vous faire vivre cet événement sur Radio U. Je suis avec Roujda, bonsoir.
Bonsoir.
On va vivre les coulisses ensemble de la Java d'été 2026 sur Radio U. On est ensemble pour une heure. Et donc, pour commencer la soirée, on est avec Clément et Sébastien Seb de Dans la Zone. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va.
Ouais, ça va.
Là, ça commence à démarrer, donc ça fait du bien que ça démarre.
Pour l'instant, ça va, ouais.
C'était un peu le rush de la préparation, là, avec un petit déplacement. On aura l'occasion d'en parler sur l'organisation de cette Java d'été. Dans la zone, ce sont des gars de Quimper qui veulent promouvoir la musique électro dans le Sud Finistère et au-delà. C'est Blanc Soleil, justement, qui parlait de vous en disant c'est des gars de Quimper qui veulent faire bouger la musique électro. Voilà, un peu comment résumer brièvement ce que c'est Dans la zone. Est-ce que on peut en dire plus? Est-ce que vous voulez en dire plus sur ce que c'est que Dans la zone?
Ouais, alors Dans la zone, c'est une asso qu'on a montée il y a déjà, je sais pas, 5-6 ans, un peu plus. Je sais même pas la date exacte avec Tim. Donc à la base, voilà, nous c'était sans prétention, c'était vraiment juste pour faire des petites soirées. Au final, ça s'est transformé en un label et au-delà de ça, une structure un peu pluridisciplinaire où on fait pas mal de trucs, quoi. On se ferme aucune barrière, donc voilà. Dans la zone, c'est ça, c'est label, boîte d'événementiel, agence un peu de booking, accompagnement 360, etc., etc.
Et ça fait déjà 7 ans, parce que c'est la création, c'est 2019.
Merci.
Merci de faire le travail
pour
nous.
On a rebossé ça tout à l'heure avec Roujda, et oui, ça fait depuis 2019.
Je pense qu'on a dû, en plus, c'est marrant parce que j'ai tout le temps le nez dans la paperasse, et on a dû déposer les statuts en 2019, et après se chauffer à se lancer vraiment un peu après. Mais ça fait depuis 2-3 ans, on charbonne bien le projet, tranquillement.
C'est la troisième édition de la Java d'été. Pourquoi appeler le festival la Java et d'où vous est venu ce nom?
Alors je crois que c'est Tim qui avait amené ce nom.
Hein. C'est Rémi.
C'est Rémi.
Ouais, c'est Rémi.
Ah, c'est Rémi. L'idée derrière ça, c'était un peu le côté un peu jeune, mais en même temps qui est multigénérationnel. Et du coup, les générations un peu avant nous, on va dire, ont tendance à dire ça a encore été la Java dans le quartier.
C'est ça.
Et c'était ça l'esprit, quoi.
Ramener un peu ce côté fédérateur, là où dans la zone, c'est un peu plus, j'allais dire underground, mais en tout cas, c'est un peu moins, ça réunit un peu moins de monde. Avec la Java, c'est vrai qu'on essaye de brasser plutôt large et de s'ouvrir à d'autres spectres musicaux, et même en termes d'identité, c'est un peu différent. Donc c'était aussi ça l'idée derrière la Java, quoi. Un mot un peu fédérateur qui parle à tout le monde.
Pourquoi la musique électro et pas un autre genre? Est-ce que c'est parce que vous êtes tous passionnés de musique électro?
Ouais, c'est ça finalement, tout simplement. Après, c'est vrai que quand les gars ont créé Dans la zone, à la base, leur idée c'était un peu de faire le pont entre musique électronique et rap principalement. Et c'est vrai que on ponce vachement tous ensemble la musique électro, donc on se réunit autour de ça.
C'est ça.
Mais l'idée, comme disait Seb, de toute façon, après, c'est un peu de s'ouvrir, on se ferme pas de porte. Nous, on a envie de proposer une musique qui nous plaît. C'est dans cette optique-là, la Java peut évoluer. Et c'est pour ça que cette année, en fait, même, on a rajouté une scène dub, qui est un truc qui nous plaisait à tous. Et c'est un truc qui colle bien à l'idée de la Java, parce que le milieu dub, c'est un milieu très fédérateur, avec des gens qui se suivent, des gros passionnés. Et voilà, c'est s'ouvrir à des styles et pour l'instant, on se ferme aucune porte.
Hein. Ouais, et pour compléter un peu ce que dit Clément, c'est vrai que la musique électronique, elle permet en fait de, d'avoir un terrain de jeu assez large où on peut explorer plein de sonorités, plein de typologies d'événements, créer des ponts, là où certaines sonorités déjà nous parlent un peu moins, mais surtout, on aurait un peu plus de difficultés à créer autant de ponts qu'on fait là actuellement. Donc, je pense que c'est ça aussi qui nous parle. Voilà, puis il y a une grosse scène émergente en plus dans le coin sur la musique électronique. Et voilà, même avec un petit home studio, des fois on a des artistes qui sont capables de sortir des trucs incroyables. Donc c'est ça aussi qui est un peu cool, quoi.
Oui, c'est vrai que même quand on lance un projet, en fait, c'est vrai que déjà si on est passionné de musique électronique, ça facilite les choses parce que quand il faut ramener des groupes, tout ça, c'est plus compliqué. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de technique. Et c'est pour ça que nous, plus ça va et plus on grossit et plus on a tendance à amener des lives. Parce que bah, on aime toujours autant les DJ sets, mais les lives, ça permet d'avoir une autre proposition et c'est cool, ça me permet de nous varier, quoi.
Et cette année, la Java d'été, c'est sur 3 jours.
Ouais.
C'est la nouveauté. Comment ça s'est passé l'organisation de ces 3 jours de festival?
Ouais. Bah, alors déjà, de base, voilà, c'est sur 3 jours. D'habitude, on est que en format open air.
Ouais.
Là, on a enfin statué pour se dire, OK, on peut mettre le mot festival avant la Java.
Ouais.
Histoire de proposer, de base, on était sur du multisite et du coup, plusieurs jours. Là, on se retrouve qu'à Dan Arbras parce qu'on a préféré anticiper la météo un peu capricieuse qui nous colle à la peau, là, depuis 2 ans. Mais comment on en vient à cette réflexion? Bah, c'est on essaye de faire grossir le truc au fur et à mesure, de pas non plus se brûler les ailes à aller taper trop haut. Mais on est toujours motivé, les événements prennent un peu, donc forcément, voilà, on a envie d'aller de voir un peu de quoi on est capable et de continuer à proposer quelque chose.
Hein. Comment ça s'est passé justement là, ce petit déplacement de dernière minute où du coup la partie open air en ville à Esplanade François Mitterrand s'est annulée? Vous avez dû vous retourner vers la salle d'Anne Arbras. Bon, il y avait quand même des choses de prévues à la salle d'Anne Arbras, mais comment ça s'est passé? C'est un petit incident de dernière minute. C'est assez intéressant de voir comment, à l'organisation d'un festival, on arrive à se retourner comme ça.
En fait, c'est vrai que nous, l'année dernière, la première année, ça allait au niveau de la météo. L'année dernière, elle était très compliquée au niveau de la météo. Ça a été une édition assez intense et du coup nous on se disait que ce format ce qui nous plaît, l'open air, mais on a besoin en fait d'un plan B parce qu'on met énormément d'énergie à créer cet événement et c'est pas pour qu'à la fin on se retrouve sous des trompes d'eau et qu'il puisse pas se passer dans des bonnes conditions. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est rapproché quand même de la scène d'Anne Arbras parce que déjà on y a fait l'hiver. Et ça nous permettait de détendre le truc. Et en fait, la salle, on l'a bloquée pour le week-end. Donc, on avait un peu on l'a bloquée, mais pas forcément, on l'exploitait pas forcément tout le week-end. Mais on avait cette possibilité, on le savait. Et quand on a vu que la météo commençait à être compliquée, on s'est dit qu'il fallait qu'on aborde ce plan B. Et on s'est dit, on va tout réunir notre énergie pour faire un super site, en fait, sur Dan Arbras. Et je pense que c'est ce qu'on a fait.
C'est histoire de tirer du positif un peu dans le côté. Le coup près qui est tombé, on préfère ne pas prendre de risques, etc. Mais après, on apprend de nos erreurs. On a vu que l'année dernière, c'était compliqué et qu'on n'avait pas de plan B. Où on allait au charbon, quitte à se manger un peu les dents. On s'est dit à un moment, OK, là, il est 20h, il continue à pleuvoir. Là, ça va vraiment être compliqué. Donc, on s'est dit, on ne veut pas trop revivre ça. Donc, on avait déjà au préalable un petit peu anticipé le plan B pour histoire de se sécuriser. Et après, voilà, forcément, on prend des décisions. Collégial.
On s'est tous réunis ensemble et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on active le plan B ou pas? Et on s'est dit oui.
C'est ça.
Bon, finalement, il pleut pas.
Pour l'instant.
Mais on a un beau coin extérieur.
Un beau coin extérieur, voilà.
Le site est quand même sympa.
Ouais, c'est ça.
Y a-t-il des nouveautés proposées pour cette troisième édition qui n'était pas dans la deuxième édition? Et comme lesquelles?
Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, c'est l'arrivée d'une deuxième scène. En tout cas, on va dire dans l'édition qui se maintient dans l'état actuel, parce qu'il y avait plusieurs choses. Je pense à la médiathèque Lingérard, où on avait une troisième scène même, qui était une scène plutôt onirique, plutôt introspectif au niveau des choix musicaux. Mais sinon, on a pas mal de nouvelles choses. Là, je pense notamment demain à 15h, on a une initiation danse par Florian de Hip Hop New School, qui va venir accompagner en fait un set de house avec une sorte de bal, initiation danse house. Après, au niveau d'autres formats, déjà, le 3 jours, c'est quand même aussi un gros changement. Mm-hmm. Donc, c'est principalement le 3 jours, les nouvelles scènes.
Il y a un peu un off aussi avec le bar Les Planches.
C'est ça, exactement, des scènes en marge du festival. Ouais, c'est toujours un truc qu'on a. Bon, alors ça, on l'avait déjà commencé à le proposer la première édition, mais on essaye de faire grossir un petit peu le truc. Donc, c'est histoire de continuer à... Enfin, de pouvoir faire un peu émulsionner la ville en amont du festival quelques jours avant. Donc La nouveauté, en vrai, c'est le mot festival. Hein. C'est ouais, parce que là, on prend un peu l'ambition différemment, quoi.
Ouais.
Lors de votre première édition en 2024, vous avez accueilli 25 000 participants.
2500, je crois.
25
000, ça fait beaucoup.
2500 participants. Moi, l'année suivante, à cause de la météo, comme vous l'avez dit précédemment, alors combien de personnes pensez-vous accueillir cette année?
2 millions, 2 millions 5, je pense. Non, en vrai, c'est une bonne question. En fait, du coup, voilà, on revient à la problématique du multisite qui change, donc nos jauges sont un peu différentes. J'aimerais bien qu'on fasse un table à 3000 sur le week-end, ce serait bien. On a 3 jours, pourquoi pas plus. En vrai, on se fixe pas vraiment d'objectif de remplissage. On essaye de profiter un petit peu de l'engouement que les gens ont de dernière minute, et puis on verra. Hein. C'est même là, du coup, c'est un peu dur à dire comme ça, étant donné qu'on a tout rapatrié.
C'est une troisième édition avec 3 jours. Ça bouleverse aussi un petit peu la programmation, ouais, des artistes. Comment ça s'est passé pour du coup concevoir cette programmation un peu plus étoffée?
Ouais.
Les discussions
Ouais, déjà le vendredi, on a étendu un petit peu la plage horaire, donc on finit 2 heures plus tard, ce qui permet en fait de caler quelques DJ sur ces créneaux-là. Après, en soi, la salle d'Anna Oise ne proposait pas de scène extérieure de base, donc on a réussi à rapatrier en fait cette scène extérieur à Dunharbraz, et ensuite comme la plage horaire elle est maintenant du samedi, tout se passe à Dunharbraz, on a réussi à recaler tout le monde. C'était un petit jeu de placer tout le monde sur les bons créneaux, mais au final ça s'est fait plutôt facilement, les artistes sont très compréhensifs.
Ouais, c'est surtout ça.
On évolue dans un univers où c'est plutôt quand même c'est cool, quoi. Les
gens sont plutôt flexibles.
Ouais, ouais, c'est clair.
C'est vrai qu'en fin de compte, là où entre guillemets on avait de la chance, c'est que les artistes qui étaient un peu critiques, ils bougent pas tant, on va dire les lives principalement, ils bougent de site, mais ils ont pas des créneaux qui changent vraiment.
C'est ça.
Donc sur ces niveaux-là, ouais, ça a été finalement, on a réussi à s'en sortir.
Dans l'organisation de ce type de festival, les bénévoles jouent aussi un rôle très important, car sans leurs aides, rien ne serait possible. Combien de bénévoles participent à cette nouvelle édition?
Alors là, on a augmenter les effectifs par...
On les a doublés, triplés, presque.
Ouais, ouais, ouais.
Presque.
On a Héloïse.
3 jours, 3 fois plus de bénévoles.
C'est ça, ouais.
C'est ça, ouais.
Héloïse qui nous a rejoint sur la partie bénévolat, pardon. qui est responsable bénévole. Et du coup, je pense que là, sur cette édition, on est aux alentours des 90 bénévoles, je dirais.
Ouais.
Plus des référents qui viennent aider du coup sur chaque mission. Et plus... des amis un peu qui viennent aider de dernière minute. Donc ouais, je dirais on est sur le week-end plus d'une centaine.
Ouais, plus d'une centaine, ouais. Ouais.
Mais oui, c'est vrai que t'as raison, hein, c'est sans eux, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Oui, ouais.
Alors un festival, c'est aussi la sécurité des festivaliers. Il ouais. y a un vrai enjeu pour que tout le monde passe un bon moment. Vous avez mis en place de la prévention. Donc les VSS, depuis déjà pas mal d'éditions, y compris à la Java d'hiver, on vous avait reçu et vous en aviez parlé avec nous toutes. Dans les éditions, comment on peut s'assurer du bon déroulement en fait de la fête pour tout le monde dans un festival aujourd'hui?
Ouais,
c'est beaucoup de sensibilisation, de communication. En fait, c'est vrai qu'on peut pas empêcher quelqu'un d'avoir un comportement, mais on peut essayer d'y réagir très vite de pas laisser passer ces choses-là. Et comment dire
ça reste compliqué quand même sur un format festival d'avoir des yeux partout. Le but, c'est d'essayer de multiplier le nombre de possibilités, enfin de réduire le nombre de possibilités en mettant en place des dispositifs. Donc ça passe par ce que tu viens de dire. On a du coup l'association, enfin il y a Equimove et du coup nous toutes qui viennent mettre un stand VSS. On a notre propre stand de prévention RDR avec des itélotests électriques, etc.
Électronique,
itélotest,
voilà. On a du coup de la protection civile où ils sont. Ouais. On est quand même. Enfin voilà, il y a pas mal de monde sur site. On essaye de vraiment essayer de combler un petit peu toutes les potentialités tous les risques, etc. Après, nous on aimerait bien faire plus. C'est compliqué, hein, c'est compliqué en fait, surtout. À Quimper, en vrai, on n'a pas non plus énormément. C'est pas une ville où on a énormément de propositions sur ce côté-là. Je pense notamment à des villes comme Paris ou Rennes où il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui accompagnent les festivals. Donc,
Ouais, nous, à notre échelle, bah, justement, pour avoir ce genre de dispositif aussi, enfin, on essaye aussi de sensibiliser nos bénévoles, parce que si on multiplie le nombre de vigilances et de regards vigilants, bah, ça permet aussi de réduire ces choses-là. Donc, c'est partie des choses aussi où on dit à nos bénévoles bah, d'être très attentifs à ce genre de comportement. On leur explique, en fait, les choses à faire, comme quoi, bah, vous n'êtes pas obligé de savoir toujours tout le temps comment réagir, mais il y a des gens ici qui savent comment réagir, donc dirigez les gens, dirigez-vous vers eux. Enfin, c'est, on essaye quand même de leur communiquer là-dessus.
Alors, on en a parlé, il y a la Java d'été, c'est la troisième édition. Il y a eu la Java d'hiver cette année, première édition de la Java d'hiver entièrement indoor. Et la Garden, Java Garden, Garden Java. Je sais pas comment.
La Java Garden.
La Java Garden, voilà. Ouais. Donc, c'est une proposition un peu multi-saison maintenant. Ouais. La Java, en termes de musique électro à Quimper, c'est un vrai rendez-vous, quoi, un truc un peu incontournable qui s'installe. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus en termes d'événementiel? Est-ce qu'il y a une Java d'automne ou un truc comme ça qui va arriver?
Peut-être. On a prévu un petit truc, on communiquera la date, mais il y a voilà, c'était une bonne analyse sur les saisons. On va profiter des 4 saisons pour faire 4 rendez-vous de taille différente, mais en tout cas voilà, il y a un truc qui se prépare et qui va être annoncé. Bah, on laisse l'événement se passer, puis on annoncera du coup la petite surprise d'automne.
Après les 4 saisons de Vivaldi, les 4 saisons de la Java.
Exactement.
La Java, c'est un festival et en tout cas une proposition événementielle qui a été créée par Dans la Zone, une association et un label qui se définit aussi d'ailleurs comme un laboratoire artistique. Est-ce que c'est dans ce cadre que vous faites aussi de l'accompagnement d'artistes?
Ouais, c'est ça. En fait, nous, on essaye de... Enfin, dans la vision un petit peu de la musique qu'on a, c'est d'essayer de toucher tous les pans. Donc, c'est-à-dire sur la partie label, on va être du coup l'aspect de production, l'aspect d'édition aussi. Dans la zone, c'est aussi une boîte d'édition. L'aspect de booking aussi, sans forcément maxer chaque truc. Hein. On n'est pas des éditeurs chevronnés ni une agence de booking avec des artistes qui tournent partout. Mais on essaye surtout de faire un accompagnement global avec l'artiste qui est avec nous. Donc, par exemple, on parlait de Blanc Soleil tout à l'heure qui nous a rejoint. Donc vraiment de travailler avec lui sur tous ces aspects, de l'accompagner, de l'aider. Puis nous, voilà, on est par exemple un artiste peut très bien sortir des trucs sous un autre label, etc. Nous, il n'y a pas du tout.
Il n'y a pas de contrat d'exclusivité sur les sorties.
Pas de contrat d'exclusivité, pas de. Il n'y a pas d'emprisonnement. On essaye de mettre un petit peu une structure hybride qui va un peu à l'encontre des autres structures. Après, il y en a beaucoup, hein, on n'est pas du tout précurseur, mais c'est voilà, plus multiplier les canaux, etc. Et puis. Un accompagnement global, quoi.
Y a-t-il des nouveaux artistes que vous souhaitez promouvoir cette année que l'on ne connaît pas encore? Vous avez notamment invité 4 lauréats, Le Moral, Lawir, Chat et Edmout. Comment vous les avez sélectionnés?
En fait, c'est un tremplin qu'on a lancé juste avant d'annoncer les dates. J'ai un doute. On avait annoncé les dates. En fait, au moment de l'annonce de l'événement, on a annoncé en parallèle un tremplin ouvert aux artistes live et aux DJ set.
Oui.
Et on a eu une cinquantaine de participations. Je sais plus.
On a eu pas mal de participations. Ouais.
Pour un premier tremplin, on a été globalement. Surpris d'avoir autant et ça faisait plaisir, donc ça a été un peu de travail à tout écouter, à tout noter. On avait l'impression d'être à l'école, quoi. On mettait notre petite note dans notre coin.
S'il y a des gens qui ont participé au tremplin et qui nous entendent, on a vraiment pris le temps d'écouter chacun.
Ah oui, ouais, par contre, et puis on s'engueulait quand quelqu'un l'écoutait pas.
Non, on a pris vraiment le temps de même les podcasts dernière minute, etc. Enfin, les mix qu'on recevait en dernière minute, on a tout écouté. Et après, pour la sélection, bah, c'est suivant plusieurs critères qu'on a été. On l'a dit en plus dans la com, hein, il y a la technique.
Il y avait la sélection technique.
Bref, il y a pas mal de critères, on va pas tous les faire. Mais du coup, on fait une moyenne après de ce qu'on a vu. Là, la quantité de mix fait qu'on peut faire ça, mais après, peut-être que quand on en recevra trop, on devra faire autrement.
Ouais.
Et donc, parmi les artistes que vous accompagnez, alors c'est au-delà même de ce tremplin, c'est plutôt par le label Dans la Zone, il y a Blanc Soleil dont on a parlé, qui est donc d'ailleurs le générique, l'introduction de cette émission, et qui joue ce soir, et qui a publié son premier EP Lost in Sordich en juin. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de cet EP et de comment vous, en tant que label, vous l'avez accompagné dans la sortie de ce projet?
Ouais, alors en gros, Blanc Soleil, il cherchait un label où sortir un projet qui s'appelle What I Need il y a un an. Et du coup, on a fait une première release ensemble. Et nous, du coup, c'est toujours un peu, on fonctionne toujours un peu de la même manière. Hein. C'est quand humainement ça passe. Après, avec quelqu'un, généralement, on reste travailler avec lui. Et du coup, pareil, quand même, il produit pas mal Gwen. Donc, il s'est dit, enfin, il avait un EP en préparation qu'il voulait sortir. Et puis il nous a dit bah let's go, on remet ça. Et puis c'était l'occasion aussi d'aller en gros, quand il a sorti What I Need, c'était vraiment c'était censé être un one shot, et au final on est parti sur une collaboration un peu plus globale. Et j'ai perdu le fil du coup du truc. C'était quoi la question exacte?
La question c'était comment vous l'avez accompagné en tant que label, mais justement c'est une première, parce qu'il y aura d'autres artistes que vous accompagnez, qui vont sortir des EP prochainement.
Ouais, c'est ça. Après, comment on l'accompagne, c'est du coup, nous, on va s'occuper de tout ce qui est mastering pour ses tracks, l'accompagner aussi s'il y a besoin de pour le mix. Après, il y a aussi toute la partie des posts ACM.
Tout la ce cover qui aussi que tu as fait.
La cover, voilà, c'est ça, tout le côté éditorial, la partie com aussi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs après, à notre échelle, quoi.
Et on aura l'occasion de l'écouter en longueur dans cette émission, et notamment des extraits de son EP Lost in Sordich. Merci Clément, merci Seb,
merci pour l'accueil,
d'avoir répondu à quelques questions là pour cette Java d'été 3ème édition. Donc c'est tout ce week-end à Quimper, toute la prog est dispo sur l'Insta,
sur le site,
voilà, sur le site,
sur les affiches, sur c'est tout.
Et donc plein de projets à venir, la Java, l'automne Java, je sais pas comment elle aura, quel nom elle aura. Ça sera la surprise, ça arrive bientôt. Bon courage en tout cas pour ce
Merci
week-end.
Beaucoup.
Et dans un instant, on va être avec Mac et Wester, justement, le temps d'écouter Burn Me, un titre qu'ils ont joué en live au Transmusical de Rennes en 2024. Ils joueront ce vendredi soir à 23h30 sur la scène de la salle Dan Arbraz pour la Java d'été 2026. On accueille un duo électropop masqué, René, très French Touch, Mac and Wester. Comment ça va ?
Ça va super et vous ?
Ça va super et toi ?
Bonjour.
Ça va super, on vient d'écouter un extrait de votre live donc au Transmusical en 2024 avec le titre Burn Me. Votre projet se construit depuis donc 2021 avec une très forte importance du live. On aura l'occasion d'en parler, on va parler de votre esthétique aussi, de vos inspirations, de votre premier EP. Mais avant, c'est vraiment nécessaire de faire un point sur votre performance de tout à l'heure, puisque c'est le plus important chez vous, c'est le live. Qu'est-ce qui est prévu pour ce soir ?
Et bah pareil qu'à l'accoutumée, toujours beaucoup d'énergie, nos morceaux du coup qu'on compose, qu'on produit, qu'on mixe avec Wester, avec divers interprètes et des fois non aussi juste les compositions. Mais voilà, la même chose que sur cette tournée d'été qui a été préparée en fin d'année dernière. Et on va rester fidèle à nous-mêmes, on va foutre le feu, on espère.
Alors il y a une vraie dynamique, hein, comme tu l'as dit, dans la scénographie. Bon, ça se voit pas dans le live qu'on a entendu là, mais parce que c'est à la radio. Mais je vous garantis que vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube et qu'il y a une vraie énergie. Et tout à l'heure sur scène, ça sera aussi la même. Pour les geeks qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous parler de votre setup et de comment vous vous organisez dans votre live ?
Et ben carrément, c'est un setup assez hybride. On a une partie qui est jouée full live, donc avec des synthétiseurs. On a deux Moog, une TB-303, un ASM Hydra-Synth Explorer, ouais, pour les plus connaisseurs,
les plus geeks
numériques. Donc ça c'est des parties live. Il y a aussi la batterie électronique où en fait c'est des pads, hein, qui vont trigger du sample. Donc ça pareil, ça s'est joué full live. Et après, pour nous accompagner par dessus, on va rajouter des bandes pour essayer de se rapprocher un peu de la version studio, pour essayer de pouvoir étendre un peu les structures, etc. Donc c'est mis un live, mis il y a un peu de programmation, etc.
Ok. C'est quoi ? Comment ça se prépare en fait, un bon live ? Comment ça se construit ?
Ça se construit comme on le souhaite, je pense, mais ça se répète beaucoup, je dirais. Ça se travaille beaucoup en amont, c'est très important. Faut beaucoup répéter, faut se remettre en question, faut bosser avec son équipe live si on a la chance d'en avoir une, demander des retours aussi, même si tout n'est pas toujours évidemment bon à prendre, mais c'est vraiment du travail en amont. Et une fois que tu connais ton set, tu peux enfin te détacher la mémoire mécanique prend le relais et du coup t'as moins besoin de te concentrer sur ce que tu vas faire au niveau des notes, etc. Et tu peux plus te concentrer sur ton lien avec le public, les mouvements, la respiration, ce genre de choses.
Alors justement, pardon, mais tu voulais y aller.
Oui, je voulais juste ajouter, et ce qui est assez intéressant quand on monte un set aussi, c'est même d'essayer de réfléchir à rien que sur le temps d'installation, essayer de préparer une installation qui va faire que tu vas pas, à chaque fois que tu vas arriver sur une date, avoir besoin de 3 heures de prépa, alors qu'en vrai tu pourras en avoir pour 30 minutes, etc. Donc c'est assez cool là-dessus. Moi je trouve ça assez sympa à essayer d'architecturer les lives comme ça.
Alors Mac and Wester, c'est un lien fort avec le public justement en live sur scène. Pourtant on ne voit pas vos visages, vous portez des masques. Elle passe par où la communication avec le public ?
Par les gestes comme les mimes. Non mais elle passe par les gestes, par la musique en vrai déjà avant tout. Et on n'a pas une communication très élaborée, juste on bouge tout le temps et on essaye d'aller chercher le public quand on estime que c'est nécessaire. La communication se fait assez naturellement au final.
Alors on va parler un peu de vos inspirations. Le masque et l'esthétique, French Touch, on pense au Daft Punk, évidemment, même si c'est des casques et pas des masques ou des cagoules. On a eu la discussion tout à l'heure entre nous. Est-ce qu'on parle de cagoule ou est-ce qu'on parle de masque ? Bon.
Là, actuellement, alors avant, on parlait de cagoule, mais là, actuellement, on a changé, on a des casques maintenant aussi.
Des vrais
casques. C'est pas des casques comme les Daft Punk, évidemment, mais c'est des casques qui sont en dur, semi-dur.
Et qui dissimulent votre visage. En inspiration, on pense aussi très French Touch à Justice. Pour ma part, j'ai repéré une référence un peu Justice dans le dernier EP à l'album Women de Justice qui était sorti en 2016 avec les titres notamment Stop et Safe and Sound. Okay. Après, voilà, les inspirations, on va piocher un peu ce qu'on veut. Moi, j'ai adoré cet album, donc du coup, forcément, je vais aller chercher ça. Est-ce que je suis dans le bon quand je parle de ces références-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi ?
Ah bah carrément, bien sûr, Justice fait partie de nos références, c'est pas la seule évidemment, ouais. On en a quand même plusieurs autres, je pense à Boys Noise par exemple, je pense à The Glitch Mob aussi, du côté américain, ou alors même à Gösa Fallstein, ouais, notre français, ouais, mais qui fait pas vraiment le même type de, d'électro. Ouais. Mais en réalité, nos inspirations, on les puise même dans la pop, dans le rock, même dans le rap. Hein, y a des producteurs rap, c'est fou ce qu'ils font. Ils vont tirer aussi eux-mêmes des sonorités assez électro. Voilà.
Et justement, en parlant de ces groupes un peu hybrides, parce que de toute façon, maintenant, il n'y a plus de cases, hein, comme tout le monde le dit, j'ai pensé aussi, parce que j'ai commencé à parler de Daft Punk, je me suis emballé, de Justice aussi, et puis j'ai noté au stylo, là, sur ma feuille, un truc, parce que ça m'est venu tout à l'heure, je pensais à Kneecap. Est-ce que vous voyez le groupe de rap irlandais Kneecap ?
Même pas.
Il y a un des membres qui porte une cagoule, ouais. Et récemment, ils ont sorti un single avec une esthétique justement très rap électro, avec une prod de Casio Kids. Je sais pas si ça vous parle.
Non plus.
Et bah écoutez, ça s'appelle Fenian et on okay. va
on prend la référence.
Je vous donne une référence. Avec grand ça c'est pas le même style, la même esthétique que vous, mais ça a pu m'y faire penser avec la cagoule et avec le côté justement on va chercher des influences dans le rap, on va chercher des influences dans l'électro. Et donc c'est un groupe de rap irlandais qui rappe en gaélique.
Ok.
Donc c'est voilà, c'est très très sympa. Et pour reparler de Justice, des lives incroyables également. Donc
c'est vrai qu'ils sont pas. Alors on n'est pas au niveau scénographique de Justice, et même sur d'autres points, on n'y est pas encore. Mais il y a, je dirais que c'est pas exactement les mêmes choses qui rendent le show intéressant. Nous, on mise sur quelque chose de peut-être différent aussi avec cette question de mouvement, d'aller chercher le public, même si on ne parle pas. Et du coup voilà, c'est deux expériences différentes. Évidemment, le live de Justice, il n'y a plus rien à prouver, c'est incroyable. Mais venez nous voir aussi.
Oui, bah oui, mais non, mais c'est très très bien. C'est très très bien, et on va vous voir justement sur scène tout à l'heure. Je parlais de votre EP aussi, Cold With It, qui est sorti donc en début d'année chez Styx Dancing Dead Records. Comment ça s'est passé, la sortie de ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Elle s'est passée bien, ça a pris du temps, en vrai ça a pris, c'est difficile de dire, mais on va dire un an à peu près, plus ou moins, et ça s'est bien passé, on a bien communiqué avec nos partenaires, on a essayé de faire les choses bien, de faire des choses qui nous ressemblent, surtout musicalement avant tout, et voilà, on s'est pas pris la tête pour cette EP, enfin on s'est pris la tête dans le sens où on a essayé de mettre beaucoup de détails, on a passé beaucoup de temps dessus, mais ça a pas été quelque chose de laborieux où on n'avait pas envie d'y revenir, au début on s'est pas posé 1000 questions, puis à force de faire des morceaux, on a vu une certaine continuité, un fil rouge, et puis... En fonction des périodes, on est dans des moods aussi qui peuvent être différents. Donc là, il y a quelque chose d'assez commun dans cette EP, même si toutes les tracks ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je dirais que ça s'est très bien passé. C'était toujours très, très enrichissant de pouvoir travailler sur un projet, au final.
Et puis, il y a quand même aussi, en termes de... Même d'inspiration, référence, au moment où on a fait tout cette EP, donc ça a été très espacé, très découpé dans le temps, on a découvert nous-mêmes d'y avoir plein d'artistes qui nous ont carrément plu et ça nous a pas mal inspiré justement parce que des fois il y a des périodes où on écoute toujours les mêmes titres, etc. et l'inspiration musicale va pas spécialement trop venir parce que on a rien découvert de nouveau, on s'est pas pris une claque, là on avait découvert pas mal d'artistes de plein d'horizons différents, donc c'était assez cool.
Ça a été ça votre processus créatif, ça a été d'aller diguer et d'aller explorer une esthétique.
C'est pas forcément conscient, je pense que c'est inconscient, c'est la musique, c'est un travail et une passion de tous les jours. Donc on se dit pas, évidemment des fois on écoute un morceau, on se dit cette ligne de basse c'est sympa, viens on essaye et on part sur quelque chose de différent, mais on s'inspire. Après non, on n'est pas parti de ces nouveaux morceaux qu'on a écoutés, c'est plus que ça a participé au fait qu'on ait fait ces tracks comme on les a faites.
Bah, ça donne une énergie globale un peu, une espèce d'émulsion un peu.
Ça fait combien de temps que vous faites de la musique tous les deux ?
30 ans ? Non.
Vous n'avez pas 30 ans, je pense.
Ça fait 10 ans qu'on fait de la musique, pas qu'on en sort, mais peut-être 10 ans qu'on fait de la musique ensemble.
Mais j'avais envie de dire, ça se sent, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde en termes de processus créatif, donc...
Pourtant c'est marrant parce que si vous nous voyez en studio, on n'est pas les mêmes du tout, on bosse pas la même partie des morceaux, mais on est habitué à communiquer, on sait ce que l'autre fait, ce qu'il ne fait pas, même si évidemment des fois les rôles s'échangent un peu, c'est pas figé dans le marbre, mais on a trouvé, on a surtout travaillé cette alchimie qui n'est pas naturelle forcément au début, qui doit se travailler, et oui, on a trouvé notre rythme de croisière.
Alors l'EP Cold With It, il est sorti en début d'année 2026.
Oui.
On peut bien sûr aller aussi l'écouter sur vos plateformes préférées. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir, justement en projet studio ?
Eh ben actuellement on travaille sur des nouveaux titres, mais on prend un petit peu notre temps parce que pareil justement là le processus créatif, on a eu une petite période là il y a à peu près 2-3 mois où on s'est mis à faire beaucoup beaucoup de titres et puis là en ce moment un peu plus rien, il y a eu la période d'été où on a fait plein de concerts et puis quand on revient en studio, il n'y a pas, pas l'alchimie, le truc qui fait qu'on peut faire des bons titres, donc on attend un petit peu. Mais ouais, on prépare des petits nouveaux sons pour prochainement.
Est-ce que justement, dans le cadre d'une tournée, quand on est liveur et donc qu'il y a toute une partie aussi de création musicale sur scène, est-ce qu'on peut partir d'une tournée et d'un live pour derrière transformer un truc en studio, quoi, transformer l'essai si on veut, si on peut le dire comme ça?
C'est-à-dire prendre un... Comment, j'ai pas compris.
Bah, c'est-à-dire que comme vous, il y a une partie très créative sur scène, peut-être que ça peut vous donner des idées, des clés, des sonorités où vous dites ah ouais, ça en fait ça a bien sonné.
On n'a pas la maîtrise forcément. Je pense que c'est pas forcément au niveau des sonorités parce que le live est construit sur, même s'il y a des choses différentes que des versions studio, c'est construit quand même sur nos
sur
versions version studio.
Donc ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre.
Dans l'autre, ça marche pas comme ça exactement. C'est plus que ça va nous inspirer d'être au contact du public, ça va nous inspirer de vivre des choses. Mais souvent, il y a toujours un temps entre le moment où tu vis le truc et le moment où t'es inspiré. Il faut que tu puisses prendre du recul. Si tu prends pas de recul, après j'ai pas la science infuse, hein, mais en tout cas chez nous, on peut pas faire directement. Après il faut qu'on arrive à redescendre, qu'on arrive à conscientiser, et après oui, ça peut donner de l'énergie et de la créativité pour la suite, parce que ça donne envie de réitérer l'expérience.
Ouais, il nous faut un temps pour digérer les inspi, etc.
Alors il y a une dernière question que je suis un peu obligé de vous poser. Vous venez de Rennes. Est-ce que vous croyez en l'existence, mais comme beaucoup de gens, hein, d'une particularité dans la scène électro-bretonne? Il y a un vivier d'artistes très important sur la scène électro au sens large en Bretagne. Il y a des labels, il y a des festivals, il y a Astropolis par exemple dans le coin dont on parle beaucoup sur Radio U. Même à Quimper, hein, ça bouge beaucoup. Il y a Dans la Zone, il y a Synchrone. Enfin, il y a une vraie scène autour du live et autour de la musique électro.
Bah oui, franchement, même je dirais, je serais plus large que juste l'électro, parce que du coup, on a la chance de pouvoir côtoyer des artistes aussi qui sont nos amis pour certains. Franchement, c'est incroyable. Musicalement, à Rennes ou même en Bretagne, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de dispositifs pour nous accompagner aussi. Et en vrai, ça dépasse même la musique électronique. Ça va sur beaucoup de styles. Je trouve que c'est très très encourageant comme milieu même si des fois on peut peut-être un peu envier Paris pour des questions de contact, ce genre de choses. On a quand même un microcosme à Rennes et en Bretagne qui nous permet d'être très prolifique, je dirais. Et d'être bien entouré aussi, avec des bonnes mentalités, évidemment pas exactement partout, mais ouais, c'est un bon endroit en France, je dirais, pour pouvoir créer, même en termes de politique, ils n'ont pas fermé toutes les portes encore.
C'est ça, d'où l'importance de bien voter et de financer correctement la culture.
Exactement.
On le dira jamais assez. Ben, merci beaucoup, Mackenzie Wester, d'avoir pris le temps de répondre à quelques questions
avec
sur
plaisir.
Radio U. Et on vous retrouve tout à l'heure, du coup, sur la scène de la Java. On va se quitter en musique, justement, avec un extrait de votre dernier EP, Call With It. C'est A Fever sur Radio U. I don't know.
Doesn't suit you less, doesn't suit you less, doesn't suit you less. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. All of your benefits fall from us. All of your benefits fall. Days and days. 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 All
C'était Blanc Soleil, Lost in Sordich sur Radio U. Il mixe ce soir à 22h30 sur la scène de la salle d'Anne Arbraz pour la Java d'été à Quimper. Son dernier EP donc s'appelle Lost in Sordich. Il est sorti en juin et il est signé dans le label Dans la Zone qui organise la Java d'été et qui était avec nous au début de cette émission. On va continuer à écouter du Blanc Soleil avec le dernier titre de son EP qui est sorti en juin. C'est Love de sur Radio U.
c'était Love de Blanc Soleil sur Radio U. Nous sommes à la Java d'été, troisième édition de la Java. On vous avait fivre les coulisses avec Clément et avec Seb de, dans la zone. Et on a eu le groupe Mac and Wester qui est venu nous parler de leur live de tout à l'heure. Et justement, en parlant d'artistes qui vont être sur la scène de la salle d'Anne Arbraz ce soir pour la Java, il y a aussi Lawir, qui est donc un DJ producteur de musique électronique rennais, et qui est dans un style un peu plus house, UK garage, et qu'on va écouter avec des titres extraits de son dernier EP, Back. Et on va écouter d'ailleurs Back, qui est donc le premier titre de cette EP, sorti cette année. Lawir avec son titre Raga District, extrait de son dernier EP, Back. Merci d'avoir suivi ce plateau de Radio U Quimper dans les coulisses de la Java d'été à la salle d'Anne Arbraz. Cette troisième édition continue tout ce week-end. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'Instagram de la Java, @lajavaquimper. Merci à eux et à Dans la Zone de nous avoir accueillis et à très bientôt sur Radio U. Bonne soirée.